avec le même plaisir pour le même devoir. C'est effectivement Jean-Claude Muyambo-Kiassa que nous accueillons aujourd'hui. Il n'a pas refusé notre invitation, nous lui disons merci et bienvenue. Hein?
Merci.
Alors, c'est depuis le 5 février dernier que vous êtes ministre des Affaires humanitaires et l'humanitaire reste encore un problème en RDC après des années de guerre. Nous en parlerons en seconde partie de cet entretien, mais si vous êtes au gouvernement pour la toute première fois, ça nous intéresse aussi de savoir d'où vous venez. Nous préférons d'ailleurs vous demander de nous dire vous-même qui est Jean-Claude Muyambo.
Vous savez, ça c'est une question très difficile. Je ne saurais pas vous dire qui je suis. Mais ce qui est vrai, je porte le nom de Jean-Claude Muyambo-Kiassa. Mon père, c'est Muyambo. Ma mère, c'est Moussoba. Et je suis né à Kolwezi le 26 octobre 65.
Dans la ville minière de Kolwezi.
Absolument, je suis de Kolwezi. Et j'ai terminé mes études secondaires à Kolwezi. Et puis... je suis allé faire l'université à Lubumbashi.
Ah ouais, mais tous les garçons qui sortent de Kolwezi vont à l'université de Lubumbashi. C'est le même chemin aussi.
Mais non, je pouvais venir à Kinou, je pouvais aller à Kisangani. Ouais. Je voulais bien terminer mes études à Lubumbashi. Et puis, de là, j'ai été recruté comme avocat stagiaire au cabinet de Batonier Mbouyou Jean.
Chambouy Luyongola, qui a été un certain moment conseiller en matière de sécurité.
Oui. Et puis, deux ans après, j'ai eu mon propre cabinet, qui porte mon nom.
Le cabinet Muyambo.
Muyambo et associé. Voilà.
Et donc, de l'obtention de votre diplôme universitaire à aujourd'hui, ça fait 16 ans. Et comment avez-vous vécu ces 16 ans sur le plan professionnel après, par exemple, l'installation du cabinet? Vous avez eu d'autres activités?
Mais non, vous savez, ce n'était pas facile. Et ce qui est vrai, je vous dirais, quand j'étais à l'université, c'était plus facile pour moi puisque on payait les études pour moi. Dès que j'ai terminé mes études, c'était terminé. Et je devais me débrouiller.
Donc, vous posez vous-même des interrogations et y répondre. C'est ça, en d'autres termes.
Ah oui, mais ce n'était pas facile. Mmh. Et de là, j'ai commencé ma profession en tant qu'avocat, mais avocat stagiaire. Et je vous dis, pendant au moins 8 mois, ce n'était pas du tout facile. Mmh. Il fallait bosser très dur. Et après, j'ai commencé un peu à voir clair. Je commençais à avoir quand même des clients. Et puis, je savais comment il fallait diriger un cabinet.
Et vous avez vu plus clair que d'autres parce qu'à un certain moment, vous êtes même devenu bâtonnier au Katanga.
Vous savez, dans notre profession, il faut être sérieux. C'est tout. Parce que dès que les clients vous font confiance, vous pouvez aller plus loin. Et pourquoi je l'ai dit? Il suffit, par exemple, qu'un client puisse vous confier 1 000 ou 5 000 dollars, que vous puissiez garder pour lui, il vous remet ça. Mais dès que vous gérez ça très mal, mais c'est fini. Le lendemain, il informe tout le monde et vous êtes fichu. C'est ça le problème.
Et le cabinet a mauvaise réputation.
Oui, absolument. À ce moment-là, vous êtes réputé mauvais.
Le grand témoin.
Grand témoin qui s'entretient aujourd'hui avec le ministre Jean-Claude Muyambo, ministre des Affaires humanitaires. Mais avant d'être ministre, monsieur Muyambo, vous avez eu d'autres activités. Vous êtes dans les socioculturels et même dans les sports.
Pas tout à fait dans les sports, mais j'ai quand même à diriger l'équipe de basketball de Mazembe. J'étais président pendant une année. Mmh. Et pendant mon mandat, nous avons quand même eu à gagner la coupe.
Et à part ça, vous êtes aussi dans les droits de l'homme, vous êtes un avocat au fait du peuple, c'est un terme qui convient?
Ça c'est vrai, ce qui est vrai, quand j'étais avocat stagiaire, même avant d'être avocat stagiaire, nous avons eu à créer les CDH avec les bâtonniers Mbouyou et M. Corneille, Maître Mbala et Maître Banza. Je peux dire que je suis cofondateur du Centre des droits de l'homme et du droit humanitaire et aujourd'hui président du conseil d'administration du Centre des droits de l'homme. C'est pour vous dire que j'ai un intérêt pour les droits de l'homme.
Et vous êtes aussi président de l'association ASBEL, disons, Solidarité Katangaise.
Oui.
C'est dans quel but ça?
Vous savez, l'association Solidarité Katangaise milite pour la paix. pour la non-violence et pour le développement dans un premier temps du Katanga, mais pour le moment, nous sommes partout au Congo.
Mais aujourd'hui, ministre, est-ce que vous avez encore du temps pour toutes ces affaires, BC Mazembe, Solidarité Katangaise ou CDH?
À ce qui concerne le TP Mazembe, j'ai dit démissionner. Mm-hmm. Mais à ce qui concerne, par exemple, mon cabinet, j'ai des confrères à qui j'ai confié la gestion, parce que je ne peux pas suivre ça. Mais à ce qui concerne la solidarité katangaise, je demeure. Je suis toujours le président.
Est-ce qu'il y a des intérêts particuliers pour ça?
Ah oui, parce que je dois servir mon peuple.
Alors quittons ce studio de Radio Okapi Kinshasa, rendons-nous à Lubumbashi. À Lubumbashi avec Paul Kaboba qui va nous faire découvrir les goûts et les couleurs de Jean-Claude Muyambo, comment il vit, qui il côtoie et qu'est-ce qu'il aime. Paul Kaboba.
On n'entre pas dans la résidence de Jean-Claude Muyambo comme on entre dans un moulin. Le système de sécurité est bien visible. Transistor à la main, un premier gardien vous accueille et vous interroge.
Paul Kaboba, il va se faire un
Dominant le bruit du transistor, un policier vient s'assurer que vous êtes vraiment attendu. Jean-Claude Muyambo habite un vaste domaine divisé en deux parties. Il y a d'abord la résidence Rapinta où il loge avec sa famille. Son épouse a eu du mal à accepter que son mari fasse de la politique. Mais au bout du compte, elle a compris ses aspirations et elle le soutient dans son choix.
Bon, au début, c'était un peu un problème parce que moi, je me disais en tout cas la politique, c'est trop de problèmes. Et avec le temps, j'ai dû quand même à le soutenir.
Elle voit son mari d'abord comme un homme qui aime ses semblables.
Chez lui, ce qui me marque beaucoup, c'est il a le sens de la communauté, parce qu'il aime les gens, il n'aime pas vivre seul.
L'autre partie du domaine de Jean-Claude Muyambo s'appelle Difalco. C'est dans le jardin de Difalco que Jean-Claude Muyambo reçoit ses amis et ses invités. Jean-Claude Muyambo a fait de cet endroit une sorte de quartier latin. Députés, médecins, journalistes, avocats, simples citoyens s'y retrouvent le soir autour d'un verre et d'un barbecue. Le député Ars Kayumba était l'habitué des lieux.
Moi, personnellement, quand je suis là, je suis très à l'aise. Son Excellence le ministre Muyambo nous reçoit avec un cœur vraiment ouvert. Il y a deux fois, s'il passe même deux heures ou trois heures sans te voir, il t'appelle au téléphone pour dire « Mais Ars, tu es où ? Viens me voir, tout ça. » Alors quand on est là, c'est pour parler, pour discuter.
Méfiez-vous, Jean-Claude Muyambo, que l'on surnomme Sarkozy, peut être aussi sévère. Cliquez seulement à l'une des plantes de son beau jardin et vous vous en rendrez compte. Pierrot Tirumbay est à son service depuis 8 ans. Il témoigne.
Bon, il monte en tenda nature. Miki est en tenda gaio. Comment on peut nous faire ça? Je crois que c'est Miki, ma flair. Miki, voilà, Bika, en tout cas, par exemple, c'est Zana. Miki est en tenda Bivuko, Bakuku, Nin, Konangaram, Pangomote.
Les proches de Jean-Claude Muyambo le décrivent comme un homme fidèle en amitié, quitte à savoir ce que pensent de lui ses adversaires politiques. Le mot coriace ne manquera certainement pas dans leur description. Paul Kaboba, pour Grand Témoin.
Merci beaucoup, Paul Kaboba. Est-ce que Jean-Claude Muyambo se retrouve un peu dans tout ça?
Écoute, c'est la première fois que j'entends qu'on puisse parler de moi et je suis très ému et je préfère m'arrêter là.
C'est vrai que Jean-Claude Muyambo aime les animaux comme il aime les hommes.
Non, c'est-à-dire on ne peut pas comparer les hommes aux animaux. J'aime la nature et j'ai fait tout pour protéger la nature. Et j'ai un grand projet où je vais créer un parc d'attractions aux environs de la ville de Lubumbashi. Ça me révolte quand je vois les enfants de Lubumbashi, ils n'ont jamais vu un singe, un soir là, mais écoute, c'est insensé. Et vous savez, une fois j'étais avec mes enfants en Afrique du Sud, là, ils me disaient, mais papa, ça c'est le coudou. Mais je dis, il y en a aussi chez nous, mais on n'a jamais vu ça.
Et les gens de Lubumbashi connaissent beaucoup de difficultés.
Est-ce que vous pouvez vous rendre compte, c'est incroyable.
Voilà, toute votre famille vit à Lubumbashi.
Oui.
Nous allons retrouver Madame Muyambo. Madame, vous nous écoutez, bonjour.
Bonjour, je vous écoute, oui.
Alors, nous sommes avec messieurs au studio. Vous voudriez bien lui dire quelque chose?
Bon, je voudrais seulement l'encourager dans tout ce qu'il fait, parce que je sais qu'il avait commencé depuis bien longtemps. Au début, bon, je ne voulais pas un peu m'impliquer, mais avec le temps, j'ai dû quand même le soutenir dans tout ce qu'il fait. En tout cas, je voudrais lui souhaiter bonne chance. Moi, je sais qu'il a embrassé une carrière politique, ben, je l'encourage beaucoup.
Merci beaucoup, Jo. Ah oui, il a dit merci beaucoup. Vous avez entendu?
Ok, j'ai entendu, oui.
Alors, dites-nous, vous connaissez tous les goûts de M. Muyambo. Il aime quelle musique?
Bon, il aime beaucoup les chansons de Kalindula.
C'est
du Katanga, oui.
Par exemple,
il aime beaucoup ça.
C'est Wangoya. D'accord, vous avez reconnu.
C'est tout Wangoya là, il aime beaucoup.
Si nous allons vous retrouver après, madame, je signale tout simplement à nos auditeurs que le Kalindula, c'est un rythme particulier et populaire de la capitale du cuivre. C'est simple, il y a un banjo, une contrebasse et des tam-tams. Nous allons prendre donc ces jeunes. Il s'appelle, je pense, Gino.
Gino
Kola.
Gino Kola. Et de la Kenya.
De la Kenya. La
commune la plus populaire. On appelait autrefois quartier rouge.
D'accord. Madame, ne vous inquiétez pas, on va revenir à vous. Alors, pour nos amis de Katumbalesa, de Kipushi, de Sakanya, se retrouvent un peu dans ce rythme. Hein?
Ouais,
et vous-même, vous en êtes content.
Absolument, et toute la ville de Lubumbashi se retrouve. Et j'espère d'ici là, toute la République aussi va se retrouver.
Dans ce rythme?
Ah oui.
Alors, nous avions en ligne Madame Muyambo. Madame, merci beaucoup pour la chanson. Alors, vous nous quittez avec un mot gentil encore pour Monsieur le ministre?
Bon, je dirais de continuer, de penser toujours aux démunis, comme il a toujours fait. Oui, je le soutiens toujours. Il va de l'avant.
Merci beaucoup.
Le grand témoin.
Grand témoin qui reçoit pour vous Jean-Claude Muyambo-Tiassa, ministre des Affaires humanitaires. Alors, dans le domaine humanitaire, cette semaine, on note que 400 Congolais sont rentrés dans leur famille. Ils venaient de la Zambie, par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à Kalemie, et ils ont poussé un houp de soulagement. Ils ont eu débarqué du bateau tanzanien bloqué samedi dernier au large du port de Kalemie à cause d'un banc de sable à l'entrée du port. Alors, ses compatriotes avaient décidé même de passer la nuit à Kalemie pour chercher des voies et moyens en vue du débarquement. Une nuit en tout cas très longue et pénible pour eux. On va retrouver ce récit de Expedi Mwamba Mobi depuis Kalemie.
C'est aux environs de 23h heure locale samedi que 414 Congolais rapatriés de la Zambie ont finalement pu débarquer au port de Kalemie. Le bateau Liemba de la Tanzanie qui les a ramenés a échoué d'entrer au port à cause d'un banc de sable. Il a fallu apprêter le bateau Pacifique qui a un faible tirant d'eau pour le transbordement des passagers. Opération fort complexe à cause d'un lac Tanganyika fort agité et comme c'était la nuit, on a utilisé de grands projecteurs. À 2h du matin, une vingtaine de camions du SCR et du contingent béninois de la MONUC ont pu transporter les rapatriés jusqu'au centre de transit Mouloula, situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Après un repas chaud, les rapatriés sont allés se coucher vers 4h du matin. Dire qu'ils en avaient grand besoin après un voyage de plus de 24 heures sur le lac. Dans quelques heures, ces Congolais vont être dispatchés dans leurs quartiers respectifs. Au total, plus ou moins 300 personnes, indique M. Aïssam du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les autres sont ceux originaires des localités en dehors de Kalemie. Expedi Mwamba Mobi, Radio Okapi, Kalemie.
Voilà, ils sont rentrés chez eux, mais on ne cite que les HCR là-dedans et les ONG internationales. Mais, monsieur le ministre, quelle a été la part des affaires humanitaires congolaises?
Vous savez, nous devons bannir cette manière de voir les choses. Pour le moment, avec le ministère des Affaires humanitaires, je suis obligé de coordonner, de contrôler et de suivre tout ce qui se passe ici chez nous. Vous allez me dire 400 personnes qu'on a ramenées au Congo sur les 60 000, ça représente quoi? C'est-à-dire, on va y aller pendant 2 ou 3 ans. J'étais à Brazza. J'ai ramené mes frères.
Qui avaient fait les événements de l'année dernière.
Je l'ai fait avec nos propres moyens. Je ne devais pas attendre les agences humanitaires. Mais ce qui est vrai, nous devons collaborer avec eux. Mais quand vous me demandez qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est grave ça, monsieur Georges. Depuis que je suis là, je ne fais que sillonner la République. C'est pour faire un état des lieux de la situation humanitaire. Et vous devez être fiers, puisque c'est la toute première fois que les gouvernements maîtrisent sérieusement la situation humanitaire en République démocratique du Congo.
Alors, en quelques secondes, quelle est la situation humanitaire aujourd'hui en RDC?
Vous savez, c'est impossible ce que vous me demandez. Je ne sais pas vous dire en quelques secondes quelle est la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Mais ce qui est vrai, le pays est sinistré et nous en sommes conscients.
Comment sortir alors de ce sinistre?
Ne vous en faites pas, j'ai tout un plan. Je suis en train de publier un rapport que vous aurez peut-être l'avantage de lire d'ici une dizaine de jours. Vous allez voir et vous serez fiers puisque moi, je cherche des moyens pour diminuer la souffrance de notre peuple. Je vous donne un exemple banal. Pour la ville de Kinshasa, je suis en train de créer la cité de l'espoir. Peut-être qu'on va changer les noms. Tous les sans-abri, les gens que vous voyez qui sont dans des cartons, ils ne vont plus vivre dans des cartons. On va leur donner un logis. Et ça, c'est très important.
Nous retenons ça.
Le grand témoin.
Alors, nous allons poursuivre, mais il y a aussi les auditeurs qui sont intéressés quand ils savent que le ministre des Affaires humanitaires est là et ils vont sûrement poser aussi leurs questions. Nous prenons un auditeur de Kikwit au Bandundu.
Laurent Bouignat, je voudrais savoir l'IST Kikwit dans la province de Bandundu. Quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte pour qu'on parle d'affaires humanitaires? En d'autres termes, quand est-ce qu'une question peut devenir une affaire humanitaire?
Alors, vous avez bien parlé des sans-abri, vous comptez faire beaucoup pour eux. Bon. Quels sont les problèmes humanitaires? Quelles sont les questions qui entrent en compte dans les affaires humanitaires?
Mais je suis content que ça soit quelqu'un de Kikwit qui me pose cette question. Je viens de rentrer de Kikwit. Je suis allé visiter les écoles de Kikwit. Je suis allé visiter l'ISP de Kikwit. Quand je parle de l'ISP, des écoles de Kikwit, il sait de quoi je parle. Les tôles se sont envolées. Et je suis allé faire un état des lieux. Et je vous dis, et je le confirme, le gouvernement va réagir. Aujourd'hui, on était en train de faire un budget. Et je pense d'ici une dizaine de jours, nous allons réagir.
Mais l'humanitaire, monsieur le ministre, demande quand même l'urgence.
C'est ça. Mais le problème vient à peine de se poser. C'est pour ça que je dis, lui, il doit comprendre, puisque ça ne sert à rien que je puisse définir le mot humanitaire. Puisque le fait qu'il m'a vu à Kikwit, il devait comprendre quel est mon rôle dans ce pays.
C'est deux semaines après qu'il y a eu des orages.
Écoute, il ne faut pas m'en vouloir pour me dire deux semaines après. Vous savez, nous avons toujours beaucoup de difficultés à ce qui concerne les moyens de transport.
Grand témoin qui reçoit aujourd'hui Jean-Claude Muyombo, qui est ça, ministre des Affaires humanitaires. Vos questions sont toujours là. Nous allons prendre cette fois-ci un retourné de Kalemie.
Manda Kipoya, niko mkimbizi, natokea pale Zambia ku kampu ya Mpolokoso. Nilifika hapa juzi na meli mwongozo. Nilipenda kuuliza hivi, wakati tulikuwa kule Zambia, tulikuwa na matarajio kusema kama tunatoka kule tunakiwa kufika huku, tunaweza tukapata hata fasi kidogo sisi kupumzika kama vile makao. Kwa sababu wakati tulitoka huku Kongo tunakimbia vita tunaenda kule Zambia, bengine walikuwa ni walokate, hawana na manyumba, bengine walikuwa ni watoto wadogo sana, lakini wakati wanafika kule kwa ile miaka tunakaa kule wanakuwa watu wazima, wanakuwa na babibi, bengine wanakuwa na babwana. Huku maparsele hakuna tena, banakuya huku hawana nafasi ya kufikiria. Sasa tutafanya nini sisi?
Alors, vous avez écouté sa question, ils sont partis du côté zambien, maintenant ils rentrent, ils ne trouvent pas leur parcelle.
J'ai bien compris, Georges.
Ouais.
Parce que je parle.
Quelle solution parce qu'ils n'ont plus maintenant leur parcelle?
Vous savez, j'ai visité plutôt Moba, je ne suis pas arrivé à Kalemie, mais j'étais aussi à Uvira. Effectivement, nos compatriotes en quittant la Tanzanie, ils transitent soit par Mpweto, Moba, Kalemie ou par Uvira. Mais il y a des centres de transit. Mais dès là, on est censé, dès qu'ils sont là-bas 48 heures après, on doit les ramener en famille. Mais quand celui me parle, il est locataire. Ça devient un cas particulier. Et vous savez, à ce qui concerne l'humanitaire, on ne doit pas résoudre les problèmes à ce qui concerne des individus. On regarde tout d'abord l'intérêt général, c'est ce qui est plus important.
Alors, en regardant l'intérêt général, faudra-t-il qu'il reste dans les camps ou qu'il s'organise autrement?
Mais non, puisque dès qu'il arrive, on lui donne quand même un kit de secours. Ce monsieur ne peut pas me dire qu'il n'a pas un ami ou des membres de famille à Kalemie. Ou si il me dit qu'il n'a pas de membres de famille à Kalemie, c'est un fonctionnaire, il devait nous dire, écoute, je ne suis pas de Kalemie, ramenez-moi là où j'étais auparavant, on devait le faire. Avec plaisir.
Est-ce que après cette intervention humanitaire là avec l'équipe de secours, il y a un accompagnement pour leur réinsertion?
Oui, absolument. Absolument.
Ça fait comment?
Ça s'est fait, puisque après, à ce qui concerne par exemple le gouvernement, c'est-à-dire j'ai confié les dossiers au ministère des Affaires sociales.
Et c'est ce ministère là qui s'en charge?
Ah oui.
Nous allons prendre encore une question de Kikwit.
Angel Ngondo, de Kikwit, responsable de la commission diocésaine justice et paix et coordonnateur adjoint de la société civile Bandundu. Je ne sais pas si monsieur le ministre sait qu'il y a des familles des enseignants, des agents de la DGM et de l'ANR et même de la police qui ont été déplacés de Chaïmbanda pour Chakombe, chassés par l'armée angolaise. Que faut-il attendre du ministre des Affaires humanitaires?
Voilà encore une question, monsieur le ministre. Votre réponse, vous venez d'ailleurs de Bandundu.
Oui, je suis content. Je suis au courant de la situation. Ce que lui ne sait pas, j'étais à Kaemba. Mais quand j'étais à Kaemba, lui,
La question que je vais lui poser, comment se fait-il ou par quelle magie il a pu quitter Kaemba pour se retrouver à Kikwit? C'est pour vous dire qu'il n'a pas voulu rester à Kaemba, il a jugé bon d'aller directement à Kikwit. Et quand il arrive à Kikwit, qu'il ne pose pas le même problème, parce que moi, en allant à Kaemba, je voulais savoir si effectivement il y avait des déplacés. Mais j'arrive là-bas, je ne trouve pas de déplacés, il ne pourrait pas qu'il me demande quand je fais une visite à Kikwit, que je puisse résoudre son problème à partir de Kikwit. Ça, ce n'est pas logique, sinon à ce moment-là, on ne va pas évoluer.
Monsieur le ministre, on peut poser une question tout à fait d'actualité. Les hommes ou les familles qui accompagnaient les hommes de Bemba, il y en a encore qui ne sont pas rentrés au pays. Qu'est-ce que vous comptez faire?
Non. Là, je voulais vous donner une précision. Au Congo-Brazza, il y a eu deux catégories de personnes. Il y a eu les civils et les militaires. Et parmi les civils, il y avait des civils, hommes civils, et des civils, femmes, des militaires, Jean-Pierre Bemba. Je suis allé tout d'abord rendre visite aux militaires. Dès là, je suis allé rendre visite aux civils. Et quand je suis arrivé là-bas, spontanément, j'ai ramené au pays 40 personnes, sans compter les enfants. Deux jours après, ceux qui sont restés, et même on demandait à ce qu'on puisse les ramener aussi, puisqu'ils étaient sûrs maintenant que les autres étaient à la maison en sécurité. Et deux jours après, je suis allé récupérer 11 femmes avec une dizaine d'enfants. Maintenant, à ce qui concerne la deuxième phase, je dois rentrer encore à Brazzaville pour aller récupérer les militaires. Mais là, le problème se pose. Il y a ceux qui veulent rentrer librement et ceux qui ne veulent pas rentrer. Et là, j'ai été clair en disant que ceux qui veulent rentrer, je vais les ramener. Et puis je vais les mettre à la disposition de la Monique, puisqu'il y en a, je pense, une centaine qui sont encore à la disposition de la Monique ici. Je vais les ramener, je les ferai en collaboration avec la Monique. Et pourquoi je le dis en collaboration avec la Monique? Parce que dès qu'on va trouver une solution, ce sera une solution d'ensemble. Et ceux qui ne voudront pas rentrer, j'ai demandé à mon collègue qu'il puisse demander à son gouvernement qu'on puisse les éloigner, c'est-à-dire au moins à 1000 km de nos frontières. Alors, ce qui est tout à fait normal.
Monsieur le ministre, est-ce que pour ceux qui vont rentrer, les droits humanitaires, les droits internationaux seront respectés?
Absolument. C'est-à-dire, moi, je les amène, je les mets directement, parce que je serai accompagné par la Monique. Et je viens avec eux, on les met directement à la disposition de la Monique. Le problème ne va même pas se poser. Et ce que vous devez savoir, ça ne doit pas être notre préoccupation. Quand je dis notre préoccupation, ça ne doit pas être la préoccupation de notre gouvernement. Nous avons nos problèmes, nous avons nos priorités. C'est les 5 chantiers du chef de l'État. Ce n'est pas ces problèmes-là.
Voilà, alors vous avez vos priorités, mais vous avez aussi 5 ans. Vous pouvez peut-être nous dire, dans 5 ans, quelles sont les réalisations palpables qui seront faites dans le domaine humanitaire?
Vous savez, Georges, ce que vous êtes en train de me demander, c'est très tôt. Je vais vous donner un exemple banal. Quand un avion décolle, je pense à décolle à 300-400 km/h, et puis c'est 10 minutes ou 15 minutes après que le pilote vous dit « j'ai pris la vitesse de croisière ». Mais ne me demandez pas dans moins de 2 mois, nous dire « non, qu'est-ce que vous allez faire ?» Mais on est en train de décoller. Je souhaiterais que d'ici 6 mois, 8 mois, rappelle-moi, dites-moi, mais où est-ce qu'on en est? Je vais vous dire, voilà, c'est la vitesse des croisières maintenant. Et moi, je pense que si c'est honnête, c'est correct.
Plus qu'une minute pour terminer cet entretien. Alors, l'humanitaire, nous le disions, demande parfois, et d'ailleurs très souvent, les résolutions urgentes. Est-ce que le gouvernement, en particulier votre ministère, sera capable d'intervenir urgentement s'il y a des cas humanitaires?
Lorsque vous êtes en train de constater, c'est ce qu'on est en train de faire. Je vais vous dire aujourd'hui, dans moins de 2 mois, je viens de distribuer au moins 10 000 tonnes de médicaments à gauche, à droite, c'est-à-dire à Yakoma, à Matadi, Boma, Mwanda, à Kilundo, Kikwit, Bandundu, Malembankulu, Moba, Pweto, Anituri, j'étais à Bunia, à Rutshuru. Je pense que vous devez quand même nous féliciter pour ça. C'est pour vous dire que notre gouvernement est proche de sa population. C'est ce qui est important.
L'équipe de Grand Témoin vous remercie en tout cas d'avoir accepté son invitation. Est-ce que vous pourrez revenir prochainement?
Volontiers.
Grand Témoin vous fixe rendez-vous le week-end prochain. Nous recevrons Marie-Ange Lucana, ministre du Travail, mais déjà demain, même heure, nous nous entretiendrons avec Jean Saïdi Bamanissa, initiateur de la conférence économique de la province orientale. Bon week-end à tous et à demain. Merci beaucoup.